40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Deux semaines de suite. Ça faisait longtemps.
On enchaîne, les gars.
À savoir que la semaine prochaine, il n'y en aura pas.
Ah bon?
Ouais, bah je suis pas là.
Ah oui, monsieur est à Londres.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Bonjour Christophe Ajus.
Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast préféré, c'est 40 mètres, les gars.
Le quiz.
Merci de nous rejoindre, des infos utiles et inutiles, des questions, des réponses, c'est bien ce podcast dont on va cesser de dire le nom. Et on a un joker cette semaine.
Oui, on a travaillé à peu près il y a 30 secondes.
Je vous demande de vous arrêter.
Je vous demande de vous arrêter.
Voilà, votre meilleure interprétation d'Edouard, ah ouais, Balladur, bien sûr. Je vous demande de vous arrêter.
J'adore. Ça commence bien, j'aime beaucoup.
Et vous pouvez jouer votre joker à tout moment avant l'énoncé d'une question pour doubler vos points bien sur la question suivante.
Il y a la question twist aussi.
Twist.
Accompagné de ces hurlements, vous réagissez ainsi, que vous soyez seul ou à plusieurs. La question twist, c'est vous qui décidez. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5.
Oh. The rhythm.
Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5.
Voilà. Bah, j'aime bien. On aurait pu garder ça en joker. La prochaine fois, peut-être. Dans deux semaines.
Le thème aujourd'hui.
Culture G.
Culture G. Général.
Oui. Oh, c'est vrai.
Comme le bac.
Général, comme le bac.
Non, général.
Ah, pardon. On va commencer avec une petite douceur, Christophe. Ça va être très choupouni. Très choupinou même.
Wow.
Est-ce que vous connaissez le choupisson?
Non.
Eh ben oui, eh bien c'est le nom qu'on donne à un bébé.
Ah bon?
Le bébé d'un animal. C'est lui aussi, assez cute. Quel est cet animal, le choupisson? C'est mignon, non?
Jamais entendu parler de ce choupisson.
C'est la première fois que j'en ai entendu parler, c'est cette semaine. Donc, allez, hop, j'en parle en 40 mètres, les gars.
Le quiz.
Ça faisait longtemps. Oh, le choupisson.
Vous en avez croisé?
J'en ai déjà
dans
croisé.
Dans les champs?
Oui, bah dans mon jardin.
De votre papa? Vous n'avez pas de jardin, vous habitez dans un appartement au dernier étage sans ascenseur.
C'est vrai que c'est très drôle quand il vient, en plus, Christophe Ajus, il se dit, je vais monter cet escalier en courant.
Bah, je le fais plus trop, là.
C'est vrai, vous êtes un peu calmé.
Alors?
Bon, le choupisson, eh bien, c'est un bébé hérisson. Le choupisson est l'autre nom du bébé hérisson que l'on appelle aussi hérissonneau.
D'accord, ouais, voilà. C'est plus joli, choupisson.
Bah oui, du point de vue de la science, ce mot a été largement adopté depuis sa création par le scientifique Pierre Kerner. Mais attention, hein, certains scientifiques ne sont pas d'accord.
Oui.
Quand on leur dit choupisson, ils disent
non. Un choupisson. Un choupisson. Non.
Alors bon, on dit bien que la femelle du hérisson est la hérissonne. Les débats font rage quant au terme à adopter pour désigner le bébé hérisson. Les puristes prétendront sans aucun doute que le mot hérissonneau est plus adapté puisque l'on dit un lionneau, un éléphanteau, mais un lionceau, pardon.
Ouais, j'allais dire, où est-ce qu'on dit un lionneau?
À Lyon, peut-être. Les Lyonnais! Mais dans le même temps, le petit de la poule et du coq, eh bien, le poussin. Hein, voilà. Le petit de la biche et du cerf, le faon. De même qu'il est le nom du petit du chevreuil et de la chevrette. Vous saviez ça?
Non.
Bah, moi non plus.
La femme du chevreuil, c'est la chevrette?
Je sais pas. Je pense que c'est peut-être une vanne de la personne qui a écrit ça.
Aïe.
On va vérifier. Bougez pas, on vérifie. Faites une petite musique.
Dum 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 dum
dum dum. C'est la femelle du chevreuil. Merci. On continue.
On ne parle presque jamais de course automobile. En vrai, je m'en tamponne. Mais le dimanche 24 mars a eu lieu le troisième Grand Prix de la saison. Après celui de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, il s'agissait du Grand Prix d'Australie. Mais dans quelle ville se court-il?
J'aime bien la F1, mais en ce moment-là, avec Verstappen, je vous parle de trucs dont vous ne connaissez pas.
Ah, rien à carrer. Il est premier au classement après deux courses.
Eh oui, il arrête pas.
On n'a pas encore eu la troisième. Hein. J'ai parlé au passé parce que l'épisode sortira après.
Oh, mais quel talent.
Ce Grand Prix d'Australie qui ne se court pas à Adélaïde, comme à notre époque.
Ah, oui.
Eh oui, Grand Prix d'Australie, à l'époque, c'était Adélaïde. Mais non, désormais, c'est Melbourne.
Okay.
Eh ouais, le Grand Prix automobile d'Australie est une compétition automobile créée en 1928, comptant pour le championnat du monde de Formule 1 depuis 85. Parce qu'au début, ils faisaient juste des courses de bagnole comme ça pour rigoler.
Allez.
Et de 85 à 95, la course se déroulait donc à Adélaïde. Et depuis 96, le Grand Prix a lieu dans la banlieue de Melbourne, sur le circuit d'Albert Park.
Oh.
Il s'agit d'un circuit semi-urbain, qui empruntent pour partie des voies de circulation quotidienne, mais dont les aménagements le rapprochent plus de tracés routiers traditionnels que d'un véritable circuit urbain du style de celui de Monaco.
Ah oui.
Et pour info, eh bien Alain Prost est le seul Français à s'être imposé en Australie, et ce à 3 reprises.
Oh, Alain !
Ouais.
Alain !
Il n'avait pas l'accent.
Non, pas du tout. Mais j'aime bien prendre l'accent.
Ok.
J'ai pas de questions sur les valeurs d'Ovalie, je suis déçu.
Mais pas nous.
Bon, bah peut-être que Verstappen n'a pas gagné à Melbourne.
Je vous demande de vous arrêter.
Oui, c'est le Joker. Je vous demande de vous arrêter.
Oui, c'est pas Uva qui annonce qu'il a perdu la présidentielle.
C'est vrai. Bon, question numéro 3, je sais que vous aimez bien quand je pose des questions sur les expressions françaises.
Ah oui.
Oui. Alors allons-y. De nos jours, hein, je précise, que veut dire casser sa pipe?
Ça va,
mais bon...
C'est offert. J'espère que vous avez joué votre Joker.
Ah oui, c'est vrai. Bah ça va, si on sait.
Ouais, mais quand même. Bon, c'est connu, on est vieux.
Oui, c'est
effectivement,
ça.
Ah, la jeunesse ne le sait peut-être pas.
Casser sa pipe, ça veut dire mourir.
Mourir.
Non, c'est pas très joyeux, désolé.
Ça va.
Alors, j'ai bien précisé, de nos jours.
Ah oui, il a précisé.
Puisque au XVIIe siècle, l'expression n'a rien à voir avec la mort. Elle désigne le fait de se mettre en colère. C'est de rage qu'on casse alors sa pipe en la jetant à terre.
Aïe.
Mais plus sûrement encore, en desserrant les dents pour vociférer. Voilà. Mais l'expression change de sens au 19e siècle, au moment de la guerre napoléonienne.
Des guerres napoléoniennes.
Oui, c'est vrai.
Il y en a eu plusieurs.
Merci de préciser.
D'ailleurs, on en reparlera.
Oh,
eh ouais.
Teasing, magnifique. Lors des opérations, les chirurgiens militaires autorisent les blessés à fumer dans leur pipe, du coup, un mélange de tabac et d'opium. Les gars, tranquille. Qui les plonge dans un demi-semi-sommeil.
Ouais.
C'est l'ancêtre des anesthésiques.
Mm-hmm.
Merci.
Ah ouais,
cette belle
merci
précision.
L'opium.
Lorsque le patient décède, il n'est pas rare que sa pipe se brise en tombant au sol,
d'accord.
D'où l'expression « casser sa pipe ».
Ok,
voilà.
Merci ouais, Charlie
plaisir.
Weber,
avec
des
plaisir.
Infos utiles et inutiles, mais des infos quand même.
Oui.
La King's World Cup, ça vous dit quelque chose ?
J'en ai entendu parler.
Bah oui, c'est moi qui vous en ai parlé.
Oui, c'est vrai.
Si vous squattez les réseaux, vous avez forcément vu l'annonce d'Amine Mathué, un grand fan de catch dans l'éternel, avec le featuring de Neymar. La scène est assez amusante, ils se retrouvent dans une salle d'attente tous les deux et Amine essaye de prendre une photo discrètement, mais Neymar le voit.
Ah mais...
Pouvez-vous nous dire quelle légende du football est le président de cette compétition ? Un petit indice, hein, c'est ancien joueur du Paris Saint-Germain et également du Milan AC. C'est pas Georges Weah.
Ouais, j'en cherchais. Il y avait Georges Weah, il y avait qui encore
Il y en a eu plein et j'ai donné que 2 clubs parce que c'est
oui.
Plus de tête.
Oui, sinon il y a le Barcelone.
Il a joué au Barça ?
Bien sûr.
Ah bon ?
Bien sûr.
C'est Zlatan.
Le Zlat.
Zlatan Ibrahimovic est donc le président de cette compétition. Alors, c'est une Coupe du Monde de foot à 7 contre 7 qui se tiendra du 26 au 9 juin 2024 au Mexique. Elle est organisée par la Kings League qui a été créée par nul autre que Gérard Piqué.
Encore un ancien Barcelonais.
Et ouais. Et dans le staff d'une équipe brésilienne, parce qu'il y a plusieurs équipes brésiliennes, hein, il n'y aura pas une équipe par pays.
D'accord.
On retrouve donc Neymar et dans l'équipe allemande, pour l'instant la seule annoncée, Mario Götze.
Oh, joli.
Dans le staff, hein, ils ne vont pas jouer.
Ah, d'accord.
Pour l'instant, aucune info n'est disponible quant à la diffusion de cette compétition en France.
Super.
Voilà, moi je voulais quand même préciser pour ceux qui se demandaient ce qu'on pourra le regarder. Quoi.
C'est dommage, ça a l'air sympa. J'ai entendu que Jérôme Roten a déjà un peu cassé du sucre sur le dos d'Amine Mathué. Vous avez entendu?
Oui, et Amine Mathué lui a répondu de manière très digne.
Okay.
Il lui a dit oui, bah c'est bien de dire oui, qu'est-ce qu'il a fait ce gars avant. C'est vrai que Jérôme Roten a eu une belle carrière, mais quand Jérôme Roten critique Neymar ou je ne sais quel autre grand joueur, est-ce qu'ils vont dire ouais, mais c'est qui Jérôme Roten? Parce qu'effectivement, comparé à eux, ça a carrière ridicule.
Ok, drop de mic.
Voilà,
c'est ça.
Mais bravo Amine, et ça a l'air
ça a l'air cool.
Très excitant parce qu'évidemment il y a des moyens et puis c'est fait à la manière jeune un petit
bien
peu
sûr.
Cette King's Cup, ça va être sympa à suivre.
J'ai hâte de voir ça, mais pas en France du coup.
Pour l'instant, on ne sait pas, ça vient d'être annoncé, il y a que 3 équipes annoncées,
bon, okay,
du calme.
C'est bon. Question 5, il est quelle heure quand on enregistre? 11h50, l'heure
Allez,
de l'apéro.
C'est l'heure de l'apéro, direction le bistrot.
Justement pour peut-être une Perlembourg ?
Non.
D'accord. D'ailleurs, en parlant de Perlembourg, j'ai un petit clin d'œil de la part de Florian, papa de Gabriel, vous vous souvenez ? Il voulait pas de Perlembourg, le petit. Bah, il a grandi et désormais, maintenant, il dit ça.
Une Pabord.
Bon, il dit une Perlembourg, mais il n'arrive pas.
Ah oui,
une
d'accord.
Pimbourg, une Pimbourg.
Ah, moi, j'entends une Pabord. Non.
Non.
Bah non, mais.
Ouais, je sais pas. Bon, petit clin d'œil, merci à Florian et à Gabriel.
Merci.
Bon, parlons bar, parlons bistrot. On va faire simple. Quel est le nom du bistrot le plus donné en France ?
Ça, c'est bien, ça.
C'est bien, ça vous plaît ?
Ah ouais.
Vous en avez forcément un pas loin de chez vous.
Ah oui, c'est sûr, on en a tous vu un.
Clairement, bah c'est le nom de bistrot le plus donné.
Dans dans les fictions en France, souvent le balto, notamment en Caméra Café et d'autres séries ou films, le balto. Ouais.
Bizarrement, le balto n'est pas dans le top 10.
Ouais, bon, j'imagine.
Oui, oui. Bon, c'est le café des sports.
Le café des sports, bien sûr.
Il y en a 152 en France des cafés des sports en 2022. Hein. Je pense que ça n'a pas été refait le calcul depuis deux ans. Donc 152 cafés des sports, 134 café de la place.
Ouais, le café de la place.
Bien sûr. 129 l'escale.
Ouais, voilà.
Ah, se voit un petit pastiche à l'escale.
Allez,
un pastiche.
Ouais, bah pourquoi pas.
C'est portugais. Et il y a 100 bistrots qui s'appellent la terrasse.
Ouais.
Ouais, bof. Ouais. Ça c'est le top 4. Hein. Après il y a café de la gare, café du commerce, le bistrot, histoire de pas se faire chier, et le café de la poste, bien sûr. À Maestratzheim chez Thérèse, c'était le café de la poste.
D'accord.
Ça vous savez tout. Vous connaissez même le nom de mon petit village. Voilà, donc si vous avez un café de la poste, allez boire un pastis pour nous. Question numéro 6.
Café de la poste faisant foi.
Oui. Oh.
Ah là, mais on est sur plusieurs niveaux de jeu de mots. Je vous demande de vous arrêter.
Je vous demande de vous arrêter.
Mais non, pas du tout.
C'est vrai.
Bah, bof quoi. Petite question histoire et défaite.
Ah super.
Quelle est la dernière bataille de Napoléon après laquelle il sera renvoyé à Sainte-Hélène? En gros, dans quelle ville a eu lieu sa dernière défaite?
On l'a déjà.
Oui, bah c'est une défaite quand même.
Oui, c'est vrai.
Et il y a une petite anecdote pas amusante.
Ah, super.
Mais elle est cool quand même.
Des anecdotes, allez, amusantes, mais aussi pas amusantes. C'est 40 mètres, les gars.
Le quiz.
Je trouve que ça va bien avec eux. Je vous demande de vous arrêter.
Waterloo, bien sûr. La bataille de Waterloo qui s'est déroulée le 18 juin 1815 en Belgique, à 20 km au sud de Bruxelles, dans l'actuelle province de Brabant-Wallon. Okay. Du Brabant-Wallon, pardon. Je ne connais pas la province.
Du Brabant-Wallon.
C'est Brabant, bah oui, pardon, ami belge. Cette bataille a opposé l'armée française, dite armée du Nord, dirigée par l'empereur Napoléon Ier, à l'armée des alliés, dirigée par le duc de Wellington, et composée de Britanniques, d'Allemands, hein, le contingent du Hanovre, du Brunswick et du Nassau.
Bien sûr.
Et de Néerlandais, unité belge et néerlandaise, rejointe par l'armée prussienne commandée par le maréchal Blücher.
Ça fait beaucoup.
Elle s'est achevée par la défaite décisive de l'armée française. La petite anecdote pas drôle.
Oui.
Les dents récupérées sur les 10 000 cadavres de Waterloo ont alimenté pendant plusieurs années le commerce de prothèses dentaires connu sous le nom de Waterloo Thief.
Ouais.
Voilà.
C'est pas très joyeux.
Non, c'est pas joyeux, mais c'est intéressant quand même
de se dire
que pendant de nombreuses années derrière, les gens qui avaient des prothèses dentaires, bah, elles avaient été récupérées sur le champ de bataille.
Merci.
Mais je vous en prie.
Écoutez,
c'est des infos utiles, inutiles et parfois pas drôles.
Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est pas. Mais au moins, on sait. Ça, on pourra raconter ça à un repas de famille.
Ouais,
pas
ouais,
sûr.
Attendez le 10 jours quand même.
Question 7, c'est à vous encore.
Je vous demande de vous arrêter.
Oui.
Depuis le 10 octobre 1960, les Terriens, donc nous, ont tenté d'envoyer des sondes sur Mars. Si dans un premier temps, plusieurs sondes ont réussi à survoler la planète, il a fallu attendre le 2 décembre 1971 pour qu'une sonde réussisse à se poser et fournir une image. Quel pays a réussi cet exploit?
En 71?
2 décembre 71.
Incroyable, ça fait tôt.
Ah oui. Non, merci.
Ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps.
Ah ouais, ça fait longtemps.
Incroyable. Joli. Et ce ne sont pas les Américains.
Non,
voilà.
Un indice.
Oui, bon, sur la fin.
Et le pays n'existe plus.
En plus, ouais.
Oui, c'est l'Union soviétique.
Oui.
Bon, si vous avez répondu la Russie, on vous donne le point. Évidemment, on est gentil, on est comme ça, et puis on est surtout pas avec vous, donc faites comme vous voulez.
C'est ça.
Parti le 28 mai 71, hein, donc elle a quand même pas mal voyagé. L'atterrisseur de Mars 3. Hein, parce que bah, y en avait eu deux avant. Et donc la première sonde à se poser sur la planète rouge. L'atterrisseur de Mars 3 est le premier engin de fabrication humaine à avoir réussi à se poser en douceur sur Mars. Parce que les autres se sont peut-être posés, mais pas en douceur, donc ça a pété. Cependant, 20 secondes seulement après avoir déployé ses instruments, il est victime d'une panne, lui donnant juste le temps de transmettre une image sombre et floue de la planète et l'empêchant ainsi de fournir des informations scientifiques. Mais une image a suffi pour dire que c'est la première sonde à avoir fonctionné sur le sol martien.
Incroyable.
Et pour info, la dernière mission en date est américaine et a permis de poser un rover le 23 février 2021 sur Mars. Depuis, il y a énormément de sondes qui se sont posées, qui sont qui tournent autour de la planète. Je trouve plus le terme scientifique hein, quand on
qui
tourne
sont,
autour.
Qui sont en satellite.
Ouais, si vous voulez. Ouais, c'est pas le mot que je cherchais, mais effectivement.
Ça marche.
Mais la dernière en date, donc c'est un rover, hein, un Range, hein, rover, très sensiblement. Hein, je sais pas s'il y a toutes les options.
On la valide, on la valide.
Depuis le 23 février 2021.
Et les images sont assez folles d'ailleurs. Celles-là, elles sont parfaites.
Ah oui.
Ah ouais, on les retrouve sur Internet en 4K.
Ah oui, on voit un renard qui passe.
Ouais, c'est ça, exactement. On voit Trump en train de jouer au golf. Non, c'est pas vrai.
Non.
Cela était moins bien.
Je vous demande de vous arrêter.
Ok, j'arrête. Question numéro 8.
C'est la question twist. 1, 2, 3, j'ai plus les
mamas. Ah oui, c'était bien.
4, 5, 6, 1, Missy. 7, 8, 9, I get enough. 10, 11, 12.
Ah, we got the blues! Voilà. On va monter cette tournée. On n'aurait jamais de cadeau, mais on va monter une tournée.
Ouais.
Question record, Christophe, je sais que vous aimez bien. C'est tombé il y a quelques jours. C'était le 17 mars dernier, du côté de Saint-Étienne. Vous en avez peut-être entendu parler. C'était un record gastronomique d'une spécialité.
Vous adorez ça.
Oui, oui. D'une spécialité suisse, mais aussi un peu française. Quel est ce record, mais surtout, quelle est cette spécialité? Voilà, vous avez deux chances de réponse.
Oui, c'est le plus grand quoi ou la plus grande quoi.
Voilà, c'est ça. Merci.
Ouais,
bon, on a une équipe.
Ouais.
Oui. J'aurais bien aimé participer parce que j'en ai pas mangé une seule de tout l'hiver.
C'est vrai?
Non, pas une seule, vous vous rendez compte?
Ah mince.
C'est triste, hein?
Je crois que j'en ai mangé qu'une, moi aussi.
Ah bah c'est bien déjà, c'est une de plus.
Mais que... on a mangé, moi j'ai mangé de la paella, qui revient à la mode.
C'est vrai. C'est le record de la plus grande raclette au monde! Ça a été battu à Saint-Etienne.
Okay.
Plus de 2200 personnes ont participé à une raclette géante à Saint-Etienne avec 620 kilos de fromage.
Bon, ouais, ça va.
Ouais, ça va.
Pour 2000 personnes.
C'est vrai en plus.
Ouais, c'est pas.
350 kilos de charcuterie et une tonne de pommes de terre, un nouveau record mondial. Cet événement a été organisé par l'humoriste Jason Chicandier.
Ah oui.
Ou Jason Chicandier. Je pense que c'est plus Jason Chicandier, bien sûr.
Oui, voilà. L'alcoolique.
Oui, c'est. Je crois qu'il a dû arrêter. Il a dû arrêter.
Ah, c'est vrai,
il a eu
des
gros problèmes de santé.
Ah, mais c'est normal.
Bon, peut-être qu'il a recommencé, mais en tout cas, il a arrêté un moment. Et son complice, Matou. Bon, on connaît plus Chicandier que Matou, mais ils font des sketchs ensemble. Tous deux visant un nouveau record l'an prochain, réunir 5000 convives, soit le double de participants. Alors, la raclette.
La raclette.
Plat originaire du canton du Valais.
Ouais.
En Suisse.
Bien sûr.
Oui, est obtenu en raclant du raclette fondu en surface par la proximité d'une source de chaleur qui peut être un four spécifique, des braises ou simplement le feu de bois.
Mmh.
C'est beau d'expliquer la raclette quand même. Le fromage se mange accompagné de pommes de terre.
Non.
En robe des chenons, vous mangez pas.
Ah, je mange pas de pommes de terre,
ah ouais,
c'est gâché. Moi, je mange que du fromage et de la charcute.
Même pas un peu de.
Et alors aussi, je rajoute des champignons, parfois des oignons, d'accord, ou de l'ail, des choses comme ça. Mais absolument aucune pomme de terre ne rentrera dans ma bouche lors d'une raclette.
Pardon, j'ai très peur. Comment vous faites alors? Est-ce que vous mettez juste le fromage? Ou est-ce que vous
non,
mettez...
Non, je mets le fromage, la charcuterie dans le caclon.
Oui, mais après, dans quel sens? La charcuterie en
ça
bas?
Ça dépend,
et le
parfois
fromage
au-dessus, parfois en dessous. Oui, dites-nous en commentaire comment vous faites. Et puis effectivement, dans les restos avec la vraie raclette, là effectivement, on n'a pas de choix.
Non, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, mais le petit caclon, c'est juste pour mettre le fromage.
Bien sûr.
Alors moi, je le blinde. Le truc qui passe
à peine. Ah oui, la charcute flambe sur le truc chaud là.
Exactement. Bon, dites-nous vraiment, est-ce que c'est juste fromage ou avec la charcute dans le petit caclon? Question numéro 9.
Petite question géo. L'île de North Sentinel, ça vous dit quelque chose?
Non.
Pourtant, elle est considérée par beaucoup comme l'île la plus dangereuse et la plus préservée au monde. La raison est simple. Ses habitants attaquent et tuent tous ceux qui souhaitent s'y rendre. Bah voilà. Okay. À votre avis, à quel pays appartient ce territoire? Et sachez que si vous avez la réponse, vous le savez peut-être mieux que les gens qui habitent l'île. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas, je crois, qu'ils sont de ce pays.
Ah ouais?
Parce que personne n'a pu leur dire.
Incroyable.
D'autant qu'ils parlent une langue qui, visiblement, pour l'instant, personne ne comprend.
C'est bien, les gars.
North Sentinel appartient à l'Inde.
Okay.
Donc, comme je le disais, pour info, si vous avez répondu faux, sachez qu'il est fort probable que les habitants de l'île eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont indiens.
Génial.
L'île de North Sentinel est l'une des îles Andaman, dans le golfe du Bengale, océan Indien. Elle se situe à l'ouest de la partie sud de l'île Andaman du Sud et a une superficie de 59,67 km².
C'est pas très grand.
Officiellement, l'île est administrée par l'Inde depuis 1947 et fait partie du territoire des îles Andaman et Nicobar. Bon, sa population présente depuis des millénaires, les Sentinelles, est considérée comme une des dernières tribus sur la planète totalement coupée du monde moderne.
Incroyable.
L'île est défendue par les guerriers Sentinelles qui n'hésitent pas à tuer les intrus avec leurs flèches et leurs lances.
Putain, c'est fou.
Eh ouais. Elle est considérée comme un territoire souverain sous sa protection par l'Inde, qui en interdit strictement l'approche depuis 1996 par la mise en place d'un cordon de sécurité entourant de plusieurs kilomètres le pourtour de l'île.
C'est incroyable.
La dernière tragique histoire en date est celle de John Alan Shaw, missionnaire évangélique américain âgé de 27 ans, qui a été encerclé et tué par les autochtones le 16 novembre 2018 alors qu'il tentait d'interférer directement avec les habitants de l'île. Après une première tentative avortée le 14 novembre, John Shaw a soudoyé des pêcheurs qui l'ont transporté à proximité de l'île North Sentinel. Les mecs ont eu peur, il a dit c'est bon, j'y vais tout seul, il y est allé en kayak.
Okay.
canoë.
Oui.
Et selon les témoins, il a reçu une volée de flèches à peine débarqué sur l'île, mais a continué à marcher. Les pêcheurs ont ensuite vu les tribaux nouer une corde autour de son cou et traîner son corps jusque dans la jungle. Le lendemain, les pêcheurs sont revenus aux abords de l'île et ils ont vu son corps sur la plage. Il y a eu plusieurs histoires comme ça dans l'histoire de cette île. Alors, il y a eu des rapprochements, il y a eu des documentaristes qui sont allés les voir, qui ont ramené des noix de coco, notamment des fruits pour un petit peu, entre guillemets, les amadouis, n'ont pas forcément été attaqués. Mais tous ceux qui ont mis le pied sur l'île, et notamment par exemple des pêcheurs indiens qui, à cause d'une tempête, leur bateau s'est échoué sur l'île, et ben, ils ont été tués par les habitants.
Incroyable quoi.
Et la plupart des documentaires sur l'île que vous pouvez voir donnent raison à ces habitants parce que toutes les îles aux alentours ont été colonisés et les habitants originaux de l'île ont tous péri à cause des maladies notamment des changements drastiques de mode de vie.
Incroyable.
Alors que eux effectivement ils tiennent le coup.
C'est fou ça.
Mais on sait pas combien ils sont, il y a des drones qui passent au-dessus, on les voit menaçant les drones avec des flèches et tout.
Là, je vais aller regarder ça, North Sentinel.
Exactement.
Ouais, ça a l'air assez... Moi je trouve ça génial encore qu'il y ait encore des endroits qui n'ont pas été croqués par 40 mètres les gars, ils nous écoutent pas par exemple, je ne pense pas.
Le quiz.
Merci. Question numéro 10, question voiture. Faisons simple, efficace, que veut dire l'acronyme Fiat?
Wow.
De la marque du même nom.
Oh purée.
Pas facile, mais...
Ah non, pas facile du tout, je me suis même jamais posé la question.
Et voilà, Fiat. Bon, c'est italien. Le I, c'est Italie, je vous le dis.
D'accord.
Voilà, indice. Le reste, vous prenez ce que vous voulez. Enfin, vous prenez ce que vous voulez, vous donnez surtout ce que vous voulez, ce que vous pouvez.
Alors,
c'est Fabrica Italiana Automobile Torino.
Torino.
C'est, ou en français, Société Automobile Italienne de Turin.
Classe.
Voilà. Ouais, voilà, comme ça vous savez tout.
Mais
Fiat.
Ouais, ça c'est beaucoup plus intéressant que mes 10 000 dents retrouvées à Waterloo.
Ah non, vous êtes fous, l'histoire est folle quand même. Bon, alors la Société Automobile Italienne de Turin est un constructeur automobile italien, bien sûr, dont le siège social est situé dans l'usine de Mirafiori à...
Turin,
oui, c'est bien fait, bravo. Depuis 2021, le constructeur fait partie du groupe Stellantis à la suite de la fusion de Fiat Chrysler Automobile avec PSA Peugeot Citroën.
Ah.
Ça fait beaucoup de marques de bagnoles quand même. L'acte de création de la Fiat Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino, merci, est signé le 11 juillet 1899, quand même, au Palazzo Bricherasio à Turin, en Italie. Depuis sa création, le constructeur Fiat est considéré comme le symbole du miracle économique italien. Le groupe a su profiter de la vague des années magiques de l'automobile italienne pour l'histoire. La plus grande usine de Fiat a été ouverte en 1900, c'est fou quand même. C'est consacré à la production de 24 voitures. Autre petite histoire, peut-être un peu plus dans les années sombres, puisqu'est sorti le symbole de la voiture familiale et populaire, la Fiat 500, vous la connaissez?
Ah oui.
Bah bien sûr, c'est une légendaire voiture.
Elle est ressortie là en électrique.
Exactement, elle est née sous l'influence du dictateur Mussolini.
Ah, comme beaucoup de voitures à l'époque.
Exactement, qui voulait relancer l'économie italienne en offrant à chaque citoyen la possibilité d'acquérir une automobile à petit prix.
Comme son camarade allemand.
Voilà, exactement. Une première génération surnommée Topolino.
Ah si.
Fut commercialisée en 1936. Voilà, comme ça, vous avez la petite histoire de la Fiat 500 et de Fiat, tout simplement. C'est à vous, Christophe.
Vous le savez, j'adore les extraterrestres. Ouais. Par contre, je ne sais pas encore si les extraterrestres m'adorent.
Je pense que quand ils
m'ont rencontré...
Cela
dit, je crois qu'on fait de meilleurs chiffres d'écoute sur Pluton que sur Terre. Oh purée, j'étais chaud en écrivant la question. C'était hier et j'avais déjà oublié. Bref, vous avez forcément déjà entendu parler de la fameuse zone 51.
Bien sûr.
Mais dans quel état américain se trouve-t-elle?
Oh, facile.
Ben vous savez quoi? En me posant la question, j'ai eu faux.
Ah bon?
Oui.
Vous avez dit quoi, la Californie?
Non, je vais pas dire...
Bah,
bon, alors j'ai dit le Nouveau-Mexique.
Ok. Bon bah c'est ni la Californie ni le Nouveau-Mexique. Mais c'est peut-être un peu entre les deux.
Ah oui?
Bah je pense que c'est le cas.
Le Nevada.
Bah oui.
La zone 51 est une aire géographique du Nevada aux États-Unis, également appelée, alors je ne savais pas, Dreamland, Watertown, The Ranch, Paradise Ranch,
quand
The
même.
Farm,
oh.
The Box, Groom Lake, Zone 51A, Neverland, ou encore The Dictatorial for Development Plans Area.
Ça va les gars, les surnoms quoi.
Ah ouais, c'est du calme quoi.
Calmez-vous là.
Où se trouve une base militaire dite secrète. Bon, c'est un peu foiré.
Ouais,
où sont testés entre autres des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée pour la première fois dans les documents officiels américains rendus publics en août 2013 quand même. Hein.
Ouais.
On en parle depuis bien longtemps avant, mais des documents déclassifiés aux États-Unis, parce que vous savez qu'au bout d'un certain temps, les documents secrets défense ne le sont plus, qui décrivent donc les essais secrets de l'avion Lockheed U-21. Qui était un avion, je crois que c'est l'avion tout plat, vous savez, très discret.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est au moment de ces essais que la plupart des descriptions d'ovnis ont été faites dans la zone. Donc, en tout cas, c'est comme ça que l'armée explique la vue de ces objets volants non identifiés. Depuis 1989, la zone 51 est aussi liée aux théories d'OVNI, voilà, à la suite de nombreuses histoires et légendes qui entourent ce site. On retrouve la référence à la zone 51 dans de nombreuses chansons, romans ou encore fictions et séries comme Stargate, X-Files, Malcolm, le fameux épisode à Vegas où Hal, Reese et Malcolm se perdent dans une base militaire.
C'est vrai.
Ils se font attaquer. Mais aussi dans les Simpsons, et Lisa s'y perd et on voit une carte où il y a écrit « You are here, we're not ».
Ok.
Vous êtes ici, mais pas nous.
Voilà. C'est drôle, ils sont toujours très drôles, les Simpsons. C'est magnifique. La zone 51, bien sûr. Un petit clin d'œil aux Elohim qui sont avec
nous. Elohim.
Allez voir Raël, ce
documentaire. Oui, oui, enfin pas personnellement, hein,
oui, non,
le documentaire.
Non. Gardez vos distances, mais regardez le documentaire. Question numéro 12, attention, question sexe, Christophe. Baissez le son si vous écoutez en famille. Enfin, c'est presque une question mode vestimentaire, donc comme vous voulez. Quel vêtement porté pendant l'acte sexuel aiderait, selon une étude, les femmes à avoir plus facilement des orgasmes?
Alors, faut que ce soit la femme qui le porte ou l'homme?
Oui. La femme.
J'en indice donc, c'est un vêtement que nous portons
aussi.
Tous.
Voilà.
Et toutes.
Enfin, en fait,
et tous.
Et tout, c'est ça. J'ai voulu poser la question pour les deux sexes, mais j'ai trouvé que des infos sur l'orgasme féminin.
Ah oui, parce que ça c'est une intrigue.
Peut-être.
L'orgasme masculin, bon, il n'y a pas franchement besoin d'aide, hein. Ce serait bien d'ailleurs. Et voilà, vous voyez, c'est fait.
Bon, en tout cas, ce vêtement, c'est les chaussettes.
Waouh.
Ouais, tout le monde dit, ah oui, chaussettes. Et bah, pourtant, selon une étude réalisée par Gert Holstage.
Ah oui.
Holstage, je sais pas, chercheur à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Bon, c'est plus Holstage, je pense. Et publié par la BBC, elle apporte, en fait, ces chaussettes, une chaleur bienvenue qui nous permet de nous détendre et donc de nous placer dans un meilleur état d'esprit pour prendre du plaisir.
Okay.
Il s'explique, un environnement plaisant avec une température ambiante agréable aide les femmes à se sentir bien et à jouir plus facilement.
Ouais, en gros, vous foutez le chauffage, quoi.
Oui, mais bon.
C'est ta merde, son étude, là. Comment il s'appelle, Gert?
Gert Holstein. Une théorie testée et approuvée pendant l'étude, quand même, puisque 80% des femmes qui portaient des chaussettes pour faire l'amour avaient des orgasmes à tous les coups.
Oh, purée.
Voilà. Indice pour vous à la maison.
Ouais.
Contre 50% seulement pour celles qui restaient pieds nus. Les chaussettes ont aussi un autre avantage, puisque les pieds sont une zone des plus stratégiques. Avoir les pieds au chaud permet d'améliorer la circulation sanguine. Or, une meilleure circulation du sang permet de faciliter la montée de l'orgasme.
Okay.
Gardez vos chaussettes.
D'accord.
C'est pas sexy.
Oui, je les garde, moi, vous inquiétez pas.
Allez,
plusieurs jours de suite.
Oh non! Horrible.
Mais celles d'aujourd'hui sont neuves de ce matin.
Ah, ça me fait plaisir.
C'est mes chaussettes Racing McDo.
Ah ouais, ouais,
je les porte
bien,
pour toutes les grandes occasions.
Ouais. Enregistrement de 40 mètres, les gars.
Entre autres, oui. Chéri Benzi, tout ça. Oui, oui,
vous aviez un slip aussi comme ça.
Je l'ai pas aujourd'hui.
Ah, dommage.
Alors, musique. Despacito.
On va faire court parce qu'on a peut-être pas forcément les droits. Allez.
Je me suis posé la question et j'étais incapable de répondre. C'est qui chante?
C'est Happy qui chante.
Ouais. Vous saviez?
Oui, parce que je l'ai diffusé.
Ok, c'est dingue. Moi, honnêtement, incapable de répondre.
Bah, en fait, je pense que c'est le seul titre qui. Voilà, ils n'en feront pas d'autres, les gars.
Bah, c'est surtout un. C'est Luis Fonsi.
Oui.
Et c'est un featuring avec Daddy Yankee.
Bien sûr.
On m'appelle Daddy Chocolat. Bientôt 8,5 milliards de vues sur YouTube. Luis Fonsi, hein, puisqu'il est de San Juan, Puerto Rico.
C'est.
Et la musique portoricaine a le vent en poupe, hein, parce que, comment il s'appelle Mince.
Bah, je peux pas vous aider, là.
Mais si...
Ricky Martin?
Non, l'autre. L'autre, non, mais...
Chris Martin?
Bad Bunny.
Ah, Bad Bunny.
Bad Bunny, le chanteur le plus écouté au monde, et portoricain aussi.
Je savais pas.
Luis Fonsi, de son vrai nom Luis Alfonso Rodríguez López Capero, né le 15 avril 1978, donc à San Juan, dans le Commonwealth de Puerto Rico aux États-Unis, est un chanteur de pop latino portoricain. Sa musique reprend différents styles, R&B et pop rock. Il devient mondialement célèbre pour sa chanson Despacito, en featuring avec Daddy Yankee. Le clip officiel dépasse les 6 milliards de vues sur YouTube en 2019. Hein. 5 ans plus tard, 8,5 milliards. Ouais. Ça monte un peu plus doucement, mais c'est normal. Ce qui en fait la deuxième vidéo la plus visionnée de la plateforme. Par la suite, il sort un nouveau titre, Échamé
la culpa,
pardon, en featuring avec Demi Lovato, quand même, qui cartonne également sur YouTube, dépassant très vite les 2 milliards de vues.
Je pensais qu'il n'allait faire qu'un titre, mais non, ça va.
Il a sorti un album, il a fait une reprise avec Justin Bieber, je crois.
Ah oui, c'est vrai.
De Despacito, d'ailleurs.
J'ai été méchant. J'ai été méchant.
Il a même sorti un album que pour la France.
Ah bon?
Oui, je sais pas pourquoi. Peut-être que le titre a vraiment eu beaucoup de succès en France par rapport à d'autres pays.
Beaucoup, beaucoup diffusé.
Ouais.
Beaucoup trop même. Question numéro 14. Je vous demande de vous arrêter.
Je vous demande de vous arrêter.
Dites-nous qui fait la meilleure imitation.
Là, aucun des deux. Édouard, si tu nous écoutes, hein. Ah non, il est pas parti.
Je ne crois pas.
Bah, si t'es pas parti, Édouard, tu nous envoies la tienne.
Ouais.
Ta version, je veux dire.
Calmez-vous.
Ouais, question. Les hommes politiques, hein.
Question science. C'est la 14e question déjà. Que mesure l'échelle de Beaufort?
Eh, l'odeur du fromage.
Eh ben non. Merci. C'était dans ma réponse.
J'ai pas vu.
Oh.
Entre parenthèses, rien à voir avec le fromage.
Voilà, je la ferai quand même. Attention, une blague arrive, les amis. C'est la vitesse du vent.
Ok.
Vous saviez pas?
Non.
Moi non plus. L'échelle de Beaufort a rien à voir avec le fromage.
Je crois qu'on l'entend de plus en plus, hein, maintenant. Oui, par les consultants sur les chaînes info.
Oui, je vais la refaire. L'échelle de Beaufort a rien à voir avec le fromage.
Ah ouais.
Parce que Beaufort, le
fromage...
Oui, mais
attention, est une échelle de mesure empirique.
Oui, comportant 13 degrés de 0 à 12 de la vitesse moyenne du vent sur une durée de 10 minutes utilisée dans les milieux maritimes. Initialement, le degré Beaufort correspond à un état de la mer associé à une fourchette de la vitesse moyenne du vent. Donc c'est une fourchette. Là, on est à peu près à 0, 0,2 peut-être. Même si de nos jours, cette vitesse peut être mesurée avec une bonne précision à l'aide d'un anémomètre.
De son doigt.
Ça marche, on lèche le doigt, yep. Anémomètre, pas facile, dites-le.
Anémomètre.
Oui, bon, c'est facile. Il reste commode en mer d'estimer cette vitesse par la seule observation des effets du vent sur la surface de la mer. C'est génial. Bon, là, on est à 4, là.
Alors, pour vous, un marin est forcément alcoolisé.
Non, mais c'était la voix d'un homme qui a travaillé, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, qui a travaillé son pastis, quoi.
Avec un peu de rhum. Il revient à l'amiral britannique Francis Beaufort, 1774.
D'où le nom.
Oui, 1857, merci. D'avoir en 1805 imaginé une échelle comportant des critères assez précis pour quantifier le vent en mer et permettant la diffusion d'informations fiables universellement comprises, ce fut l'échelle de Beaufort. C'est magnifique quand même. Je vous passe les équations savantes pour faire le calcul, mais si vous voulez, vous pouvez les retrouver sur la page Wikipédia de l'échelle de Beaufort. Il y a tout un... Il y a des lignes et des lignes d'équations. Je vous souhaite bon courage. On va continuer. Question numéro 15, on va rester dans le Beaufort, Christophe.
Ok.
Ça vous fait plaisir?
Oui.
Oui, le fromage, cette fois-ci, voilà. De quelle région française est originaire le Beaufort? Normalement, c'est facile. Vous avez vu comme j'ai rebondi?
Oui.
Vers le fromage?
Ah bah, normal.
Ouais, oui.
J'aurais pas su.
Ouais, j'aurais pas su non plus. J'aurais
ah voilà, vous dites c'est facile. Ni vous, ni nous n'avions la réponse.
On aurait pu dire le Jura. Eh ben non, c'est la Savoie.
Ok.
Voilà. Le Beaufort est l'appellation d'origine d'un fromage au lait cru de vache à pâte pressée cuite, élaboré en Savoie en France. La production du lait et sa transformation s'effectue dans une aire comprenant la région du Beaufortin, d'où il tire son nom, bien sûr. Il est formé en meule à talons légèrement concaves, comme ça vous le savez. L'appellation Beaufort est préservée commercialement, via une appellation d'origine contrôlée, une AOP. Petite anecdote, Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Le célèbre gastronome du 18e siècle.
En culotte courte, disait-on à l'époque.
C'est vrai.
Ah oui, pour les gastronomes aux culottes courtes.
Ah, mais oui. Surnommé le Beaufort, le prince des gruyères.
Oh, fatigue.
C'est beau,
quand même. Quand même, hein. Franchement, hein. Nous, on n'aura jamais de surnom, mais lui, c'était le prince des gruyères.
Et puis, autre anecdote, à Albertville, on produit.
Ah, c'est tout. C'était ça l'anecdote. Le mec était surnommé le prince des gruyères.
Non, c'est Jean-Anthelme Brillat-Savarin, surnommé le Beaufort. Le prince des
gruyères. Ah, je croyais que c'était lui son surnom. J'avais mal écouté.
Non, c'est pas grave. Vous m'écoutez jamais.
Non.
Voilà. Autre précision. Autre petite anecdote peut-être.
Oui.
À Albertville, on produit de l'électricité avec le Beaufort.
Oh.
En effet, les matières non utilisées lors de la production du fromage, telles que le petit lait, sont transformées en biogaz. Tout comme à Maestratzheim, chez moi, où en fait, il y a les choucrouteries, hein, Maestratzheim à côté, à Krautergersheim. Et donc, le jus de choucroute, au lieu de le jeter, ou de le recycler.
On en fait de l'énergie.
On en fait de l'énergie et on en fait de l'électricité. Et c'est une première mondiale, monsieur!
Ouais, cela dit, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on cultive la choucroute pour faire. Bref.
Bon, tout ça, c'est pour dire que c'était un peu grâce à mon papa aussi.
Bravo, monsieur Charlie Weber senior.
Oui. Bon, question numéro 16.
Cinéma. Je vous demande de vous arrêter.
Cinéma.
Voilà. Sur la route, On the Road, est un road movie franco-américano-canado-brésilien, réalisé par Walter Salles, sorti en 2012. Vous l'avez vu?
Oui.
Pas moi. Le film est inspiré du livre, du même nom bien sûr, On the Road, sur la route, mais qui est l'auteur de ce livre?
Lui, je l'ai lu.
Moi aussi.
Et j'ai adoré.
Moi je l'ai lu en VO. Faudrait que je le lise en VF.
Je crois que je dois l'avoir, je peux vous le filer.
C'est assez, assez compliqué en VO quand même.
Parce que c'est
une écriture particulière.
C'est ça. Et j'ai vu à Paris, il y avait une exposition sur les beatniks et il y avait
Et c'est ça ce que c'était l'une des infos intéressantes.
Allez, j'en dis rien alors.
Non, c'est pas grave, mais c'est Jack Kerouac, bien sûr. Jack Kerouac, Sur la route, titre original On the Road. Et le roman le plus connu de Jack Kerouac, publié en 1957. Ce livre a été écrit d'un seul jet, en 3 semaines, du 2 au 22 avril 51, sur un rouleau de papier de 120 pieds, c'est-à-dire 36,50 mètres. Il n'a pas donc écrit sur un cahier, il n'a pas pris des feuilles volantes. Non, c'est un rouleau, comme un papyrus en quelque sorte, de 36,50 mètres. Donc pendant 20 jours, 3 semaines, il a écrit comme ça, d'un jet, sur ce papier. Donc vous l'avez vu.
Je l'ai vu, il était en...
Effectivement, il est exposé dans...
C'est ça, dans le monde entier, C'est impressionnant. On se dit qu'il a écrit ça d'une traite, c'est fou.
De longues sessions de prose spontanées et enfiévrées, il crée ainsi un style d'écriture totalement personnel, en partie inspiré par son amour du mouvement jazz bebop, de ses fulgurances et de ses improvisations. Jean-Louis Kerouac, ou Jean-Louis Lebris de Kerouac, dit Jack Kerouac quand même, c'était ça son vrai nom, né le 12 mars 1922 à Lowell dans le Massachusetts, et mort le 21 octobre 1969 à Saint-Pétersbourg en Floride, est un écrivain et poète américain. Et évidemment, le genre cinématographique du road movie moderne est directement né de ce roman Sur la route, On the Road, de Jack Kerouac.
Ah, la classe. J'adore ce livre. Et c'est pas facile même en français, ça part un peu...
Ah oui, parce qu'évidemment, c'est écrit d'un jet. Et puis oui, c'est les élucubrations d'un gars qui se promène aux États-Unis. Et puis si vous n'avez pas ce que je n'avais pas à l'époque, les références.
Oui.
Parce qu'il parle, je crois, de Burroughs, son pote auteur également, mais il donne des pseudonymes. Sa maman, dans le livre qui lui parle, est en fait sa tante. Enfin, la tante dans le livre est en réalité sa maman dans la vraie vie. Et il y a plein de trucs comme ça, même des mots... il décrit des personnes de la rue par des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'est très compliqué parfois à lire, en tout cas en anglais, mais visiblement en français aussi.
Le film est pas mal, mais vu que c'est compliqué de retranscrire ça en images, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur film du monde. Mais le livre est très bien. Question numéro 17. C'est à vous.
Ah oui. Je vous demande de vous arrêter. Une petite question capitale, ça faisait longtemps.
Oh, oui.
Et pour une fois, je change. De quel pays? La ville de Bratislava est-elle la capitale?
Ah ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est pas mal aussi.
Ah ouais.
Parce qu'on a souvent, bien sûr, j'ai pas d'exemple.
Uruguay, Montevideo.
Bien sûr, mais Montevideo, c'est où?
C'est en Uruguay.
Oui, c'est vrai.
Mais là, c'est ni Montevideo, ni l'Uruguay, c'est Bratislava et c'est la Slovaquie.
Oui.
Bratislava est la principale ville et la capitale de la Slovaquie, située dans le sud-ouest du pays, à proximité des frontières avec l'Autriche, la Hongrie et la Tchéquie d'une part, et de la capitale autrichienne Vienne d'autre part, traversée par le Danube. Elle abrite 475 503 habitants en 2020, mais 666 000 environ, selon les données des opérateurs de téléphonie mobile. T'as les mecs, il y a quand même quasi 200 000 personnes qui ont dit « moi je réponds pas à vos conneries là ». Recensement, non.
Par contre, je vais prendre un forfait 150 gigas.
L'extrémité occidentale des Carpates se trouve sur le territoire de la ville. Malé-Carpati, petite Carpate. Bon. J'avais pas d'infos amusantes, mais la ville n'est jumelée avec aucune ville française.
Ah, super.
Mêlée avec Portland et Cleveland aux USA, Brême et Ulm en Allemagne ou encore Parme en Italie.
Et pas en France.
Non, aucune ville française n'est jumelée avec Bratislava.
Eh ben, dommage.
Bah ouais.
Ça a l'air joli en tout cas. On y va?
Oui.
Ben, à bientôt. C'était okay. 40.
Le Allez. Quiz.
question numéro 18 déjà. Je vous demande de vous arrêter.
C'était Homer Simpson qui reprend Balladur. Côtelette de peur.
Côtelette de porc.
Ah, vous le faites vraiment bien.
Mais c'est le seul truc que je tiens.
Allez.
Je vous demande de vous arrêter. Ouais. Pas du tout.
Un peu de culture.
Oui, un peu de culture maintenant. Comment appelle-t-on les livres imprimés en Occident avant 1500? Ces livres ont un nom. Lequel?
Ah.
Vous connaissez, je suis certain, vous connaissez le terme.
Non.
Mais ah ouais?
Ah non, j'ai jamais lu ce terme. Ni lu, ni entendu, ni vu.
Ah ok. Bon, bah écoutez. Bon, bah c'est imprimé en Occident avant 1500. Ces livres sont des incunables. Vous n'avez jamais entendu ça?
Ah non.
Ok. Le mot incunable provient du mot latin incunabula. Incunabula.
Ouais.
Voilà, qui signifie l'ange ou berceau.
D'accord.
Voilà. Un incunable est un, est par convention un livre imprimé en Europe avant le 1er janvier 1501.
OK.
1501 si vous préférez. Cette définition précisée apparaît pour la première fois dans un catalogue de vente publié en 1688. Bon, ça on s'en fout un peu. Mais certains supposent qu'elle pourrait remonter à l'époque de Malingtrode. Ça aussi, on s'en fout un petit peu.
Ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi du tout il s'agit. Il y a un lien, hein. Il y a une note oui. Wikipédia, mais on ne s'en saura pas plus.
On distingue les incunables xylographiques de ceux issus de presse à imprimer à caractère mobile.
Okay.
Voilà. Les incunables sont répertoriés dans des bases de données internationales qui recensent plus de 30 000 exemplaires d'incunables. La bibliothèque d'incunables de British Library possède plus de 10 000 éditions réparties en 12 500 copies, représentant 37% des éditions connues.
Okay.
Vous êtes content de le savoir ?
Ouais, ouais.
L'appellation est parfois improprement étendue au post-incunable, livre d'aspect comparable mais imprimé ultérieurement, c'est-à-dire jusqu'en 1525 ou en 1530. Donc en gros, si vous avez un livre d'avant 1500 à la maison,
non.
Ce qui doit être assez rare,
clairement
vous avez
non.
un incunable.
J'ai un télépoche de 83, mais...
Bah vous êtes post-incunable.
Ouais, ouais, ça c'est clair.
Non, voilà, donc les avant 1500, c'est les incunables, et il y en a quelques-uns un peu dans le... Il y en a par exemple à Célestat, en Alsace, à la bibliothèque...
Ah, quand vous pouvez placer l'Alsace, vous...
Alors on y est, les gars,
allez, hein.
Et l'Alsace, les gars, les Alsaciens. Pardon.
Question 19.
Oui.
Je vous demande de vous arrêter.
J'ose plus.
Thomas Stolz Harvey est entré dans l'histoire parce qu'il a pratiqué l'autopsie d'un personnage célèbre du XXe siècle et surtout, il a volé son cerveau.
Oh.
Eh ouais. Non. Et de qui s'agit-il ? Le personnage. Hein.
C'est...
La personne.
Enfin, j'allais dire, c'est génial. Non, c'est pas génial, mais
non,
c'est incroyable.
Non, c'est pas génial.
Non, c'est pas génial. Et c'est fou.
Et il s'est servi.
Ok. Bon, en plus, c'est niveau cerveau...
Eh bah, justement, c'est pour ça qu'il l'a pris.
Bah oui, je sais bien.
Albert Einstein. Le 18 avril 1955, Einstein meurt d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Sa dépouille est transférée dans le service de médecine légale du docteur Thomas Harvey. Sans autorisation, ce dernier prélève son cerveau pour y chercher une trace de son génie. Premier constat, il est petit. 1230 grammes contre 1350 grammes en moyenne chez un homme.
Okay.
Puis le médecin découpe l'encéphale en près de 240 petits blocs qu'il analyse au microscope. Finalement, il ne publie rien. Plus de nouvelles du célèbre cerveau pendant des années.
Incroyable.
Et en 1978, un journaliste retrouve la trace de Harvey et déclare « Il a admis qu'il était toujours en possession du cerveau. » Il m'a dit que jusqu'ici, il n'avait rien trouvé qui indique la nature physique de ce qui rendait ce cerveau spécial. La voix du journaliste est une interprétation personnelle. Il est probable qu'il n'avait pas cette voix.
Si, si.
Harvey cédera par la suite quelques échantillons de matière grise à la communauté scientifique, dont certains finiront au musée de Philadelphie. Info triste et inutile, juste avant de mourir, le physicien prononcera quelques mots en langue allemande. Mais l'infirmière de l'hôpital de Princeton, qui était de garde, ne parlait pas cette langue et ne put donc ni les retranscrire, ni les répéter.
Oh non !
Ça se trouve, le mec nous a sorti la réponse à tout le questionnement de l'univers, mais comme il l'a fait en allemand, l'infirmière n'a pas pu noter, donc on ne connaîtra jamais les dernières paroles d'Albert Einstein juste avant qu'il se fasse chourer son cerveau.
C'est horrible que ce soit pour les derniers mots et le cerveau.
Eh ouais.
Le mec, il y a des bouts de cerveau un peu partout, quoi. À Princeton ou je sais pas où là, à Philadelphie, c'est triste quoi.
Il a fait la source
ouais, de la vie.
Voilà.
Il a accès au Sud-Ouest.
Pardon.
Je vous demande de vous arrêter. On a eu Dali. Je vous demande de vous arrêter.
C'est vrai, oui, oui. Mais Dali version Simpson, encore une fois.
C'est le médecin mexicain là.
Ah oui.
Je vous demande de vous arrêter. Ou italien peut-être, là c'était plus l'Italie. Bon, question numéro 20.
C'est déjà fini heureusement.
Ouais. Question ciné pour finir, on parle beaucoup de Dune 1 ou de Dune et de Dune 2 bien sûr.
Ouais.
Oui, en ce moment qui vient de sortir avec entre autres Timothée Chalamet et Zendaya.
Je sais même pas.
Ah bon ?
Non.
Très bien. Mais saviez-vous qu'une première version était sortie en 1984, bien
oui.
sûr, avec entre autres le chanteur Sting. Mais qui a réalisé cette première version ?
On me l'a dit il y a deux jours.
Ah ouais ?
Oui.
La réponse ?
Mais c'est pas avec vous qu'on me l'a dit d'ailleurs.
Ah, c'est possible.
Ah si, c'est Pry qui nous l'a dit.
Ah oui, peut-être.
Ah oui, on parlait
parce
qu'il est allé le voir au cinéma.
Oui.
Et,
ah oui.
Et j'ai demandé, mais il n'y avait pas Sting dans l'original ? Si, si, Sting. Et réalisé par
David Lynch.
Ah ouais.
Eh oui, un cinéaste, scénariste, photographe, musicien et peintre américain, né le 20 janvier 1946 à Missoula, Montana. Vous pouvez me le faire avec pas facile.
Missoula, Montana.
Oh,
Ah ouais.
Okay, un peu déçu.
Ouais.
Il est l'auteur de 10 longs métrages sortis entre 77 et 2006, comme la série Twin Peaks.
Ainsi que d'une série télévisée notable,
oui, oui.
Twin Peaks.
Oh, ça va, mais j'ai vu Twin Peaks, j'ai sauté dessus,
j'ai
parce que c'est une super série. Elephant Man également, Blue Velvet, Mulholland Drive. Il a reçu la Palme d'Or, oui.
C'est Laure et Lula aussi que j'aime beaucoup.
Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas mis, mais. Ah si, je l'ai mis en plus. Bah,
avec
parce qu'il
Nicolas
a gagné
Cage.
Il a gagné la Palme pour ce film-là. Voilà. Mais à la base, ce n'est pas lui qui aurait dû sortir la première version de Dune.
Non.
Attention, l'histoire est assez folle.
Aïe.
En 1975, le réalisateur Alejandro Jodorowsky.
Mm-hmm.
Jodorowsky.
Ouais, alors la rota sur le prénom et le J normal.
Alejandro Jodorowsky.
Ouais, le nom de famille, effectivement, c'est peut-être Jodorowsky.
Voilà. Commence à travailler sur une adaptation du roman.
Mm-hmm.
Le projet devait voir la participation d'Orson Welles.
Quand même.
De Salvatore Dalí.
Ah ouais.
De Mick Jagger.
Oh purée.
Du dessinateur Moebius.
Ah ouais.
Du designer H.R. Giger.
Bon là je connais pas.
Ouais, moi non plus. Et être mis en musique par le groupe des Pink Floyd.
Purée.
Et les Français de Magma. Mais le projet tourne court. Les studios de production lâchent Jodorowsky et son associé Michel Sédou. Jodorowsky. Vous
croyez que c'est le papa
peut-être.
De Sédou.
Peut-être. Vous voulez qu'on regarde ?
Non.
Jodorowsky réutilisera une partie de son travail et de l'univers de Dune sur la bande dessinée La Caste des Métabarons, un documentaire. Je crois que vous m'avez parlé de ce documentaire.
Non, c'est Pry aussi.
Ah, c'est Pry aussi.
Ah, ouais.
Jodorowsky's Dune,
mm-hmm.
Voilà, avec l'accent, réalisé par Franck Pavich et retraçant le développement du projet, a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2013, puis est sorti en salle. Ça a l'air plutôt pas mal. Orson Welles, Dalí, Mick Jagger, les Pink Floyd qui ont d'ailleurs commencé, hein. Ils ont commencé la BO du film, ça n'est jamais vraiment sorti. Voilà, et puis ensuite, eh bien, c'est le réalisateur Ridley Scott et Randolph Wurlitzer.
Mmh.
Wurlitzer qui ont travaillé un temps sur un script de Dune avant que Scott ne se lance dans l'aventure du film Blade Runner, et il a plutôt bien fait, et c'est donc David Lynch qui a repris tout ça.
Quelle histoire.
Et qui a dit ah ben c'est bon, je vais faire Dune les gars.
Ah, il faut que vous vendiez votre récit bon qui a été copié-collé,
oui,
donc c'est un peu chaud, mais oui, cette série sur Netflix là, les films qui ont marqué notre vie. Bon, moi Dune j'ai jamais vu. Moi le désert bof.
Oh.
Laurence d'Arabie et Dune, non.
Non,
non,
c'est les deux. Les autres, ça va.
Voilà.
Le boulet, ça va.
Ouais, le boulet, ouais, voilà. J'ai bien aimé. Ouais.
Par exemple, ça, ok. Mais pas la reste, quoi. Bon, c'est la fin, déjà, de ce 40 mètres, les gars.
Le quiz.
Alors, est-ce qu'on pose une question pour
mais
les.
Mais oui, pour le plaisir de faire jouer également nos camarades sur les réseaux.
Oui, exactement.
Vous nous répondez, effectivement. Alors, visiblement,
oui.
Une amie personnelle de Charlie.
Non.
Okay.
Enfin, c'est pas une amie personnelle, mais elle nous écoute et on la remercie.
On l'embrasse.
Voilà, c'est Christ Venn. Alors, peut-être que c'est un homme, je ne sais pas.
Bah,
j'ai
alors,
le Christ.
Pardon. Alors, oui. Un ami personnel.
Peut-être. Homme.
Une personne.
Parlotrice. Ah non, on parle. Une personne.
Une personne.
Christ Venn qui nous a dit ben, à défaut, juste de dire le nom du gagnant et faire une dédicace, c'est suffisant. Au pire, ça fait un sélectionné pour un grand tirage pour faire un épisode avec vous. Bien évidemment, ils vont au Central Perk. Déjà, ça, c'est la réponse.
Bon, alors, on la remercie
dernière.
Ou on le remercie.
Merci.
Bravo pour cette bonne réponse. Effectivement, on va peut-être sélectionner pour les épisodes invités.
Oui, peut-être ça.
Les gens seront un peu plus sobres que nos invités habituels.
Non, 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 non. Et puis, on va quand même essayer de faire des cadeaux. Mais en tout cas, on vous invitera.
La question.
Juste avant, il y a encore le gagnant du quiz télévision qu'on n'avait pas donné la semaine dernière.
Bah, c'est
Fabien. C'est Fabien qui a gagné la quiz télévision et Chris Venn qui a gagné sur série.
Ah voilà. Oui, c'est vrai que c'était vieux.
Fabien et Chris Venn. Donc,
merci
bravo,
Fabien, vraiment. Merci Chris Venn.
Donc pour jouer, c'est très simple, vous laissez votre réponse sous le post Instagram ou encore sur Spotify.
D'accord.
Également, vous pouvez répondre à la question. Quelle est la question, Christophe ?
Quelle est la capitale de la Suisse ?
Voilà, simple, efficace,
ouais.
On fait pas compliqué, on aime vous faire plaisir. Sur ce, nous on se retrouve vendredi.
Avec plaisir.
Pour un nouvel épisode de 15 minutes, les gars.
Les quiz.
Là, les quiz, c'est les quiz.
C'est les quiz.
C'est les quiz.
On écarte les quiz.
Oh. 40 mètres, les gars.
Le quiz.
C'est fini, à vendredi, bisous.